Rock
Against Police. Des Lascars s'organisent. Une histoire
en 6 épisodes. Le premier concert Rock Against Police a lieu dans un squat à Paris en avril 1980. Cette année-là, 8000 jeunes immigrés se font expulser. Et en quelques mois, 3 jeunes sont tués par des flics ou des beaufs racistes. Yazid à Strasbourg, Abdelkader à Valenton, Abdelkader à Vitry. Pour les Lascars, il faut réagir collectivement face à ces meurtres. Le concert à Saint-Blaise est une première tentative de rencontre entre différents réseaux, où se mêlent habitants des cités de transit, jeunes banlieusards, rockers et punk, squatteurs et militants de l'autonomie. Épisode 2, se rencontrer et se coordonner. Avec Samir, Momnis, Bernard, Mounsi, Alicie et Lombria, Dom et Franck.
Je pense que c'est quand même important de situer le contexte. C'est-à-dire on est à la fin des années 70, début 80, hein. On est dans une période où on a des quartiers qui sont des réserves à chômeurs.
Samir.
Dans lesquels tu as, en gros, tu as deux institutions. L'école, mais qui fabrique des chômeurs, avec des diplômes ou pas, qui sont parqués dans des réserves. Et la deuxième institution, c'est la police. Donc le seul rapport que tu as avec la société dans laquelle tu vis, c'est la police, et les rapports sont évidemment conflictuels. On est dans une période où il ne se passe pas un mois sans qu'il y ait un gars, ou en général un arabe, qui se fasse buter par un flic, par un beauf, tonton flingueur. Et donc ça crée évidemment des rapports très, très tendus avec la police. Hein. Donc, Rock and Police, c'est ça, quoi. Hein. Le contexte.
Le 5 mars 1980, le comité de soutien à Abdelkader, tué à Valenton, écrit un appel à mobilisation. Extrait.
Abdelkader a été abattu par un policier le 2 février à 1h du matin, dans la cage d'escalier d'un bâtiment des Polognes à Valenton. Abdelkader avait 16 ans et demi. Il n'était ni costaud, ni agressif. Une bavure de plus ? Ce serait oublier les consignes de Bonnet, ministre de l'Intérieur, qui, à travers de cyniques déclarations à la presse ou de plus discrètes circulaires, exhorte ses subordonnés à faire usage de leurs armes chaque fois qu'ils se sentent menacés. Ce serait oublier ce racisme ambiant que la police est la première à manifester en séparant à vue d'œil de la foule qu'elle contrôle sans cesse les gens que le teint basané désigne comme naguère l'étoile jaune cousue sur le vêtement du juif. Ce serait oublier le discours dominant qui vise, dans la peur profonde qu'il provoque et entretient, à dresser la France de l'ordre contre tout ce qui désobéit et se rebelle. Ce serait oublier les derniers verdicts qui, sous couvert de légitime défense, relaxent les assassins dès lors que ces derniers ont défendu la propriété privée. Ce serait oublier ce code pénal sauvage des honnêtes gens qui punit de mort le vol d'une bagnole et pardonne un vol de diamants. Quand bien même la bavure devait être réellement un accident, la main du policier n'avait pas à être armée. Si elle l'était, si le flic a délibérément risqué l'irréparable, c'est que cette psychose de l'insécurité l'avait gagné lui aussi, le transformant en shérif. Cette psychose nourrie de scoops étudiés, de statistiques truquées, aveugle les gens. Elle leur fait désirer, avant la sécurité des prix, des salaires, de l'emploi, que le pouvoir est incapable d'assurer, la présence des flics. Chacun s'enferme chez soi et prend peur de son voisin. On se cramponne à ses maigres biens, appelle à son secours des gens armés, au besoin les supplée. Nous combattrons la campagne permanente qui pousse la population dans les banlieues à prendre peur d'elle-même et à se présenter désunie et désarmée devant les vrais responsables de l'insécurité. De cette vie entièrement organisée pour l'exploitation et l'atomisation des travailleurs naissent le désordre et la révolte. La présence des flics ne changera rien. C'est cette vie qu'il faut changer. Nous lutterons pour arracher les moyens de changer cette vie.
Pour la seule année 1980, 18 crimes racistes et sécuritaires ont été dénombrés en France.
Bon, il y avait une grosse pression de la police, surtout à Nanterre, un peu à Vitry. Au début des années 80, il y a eu plusieurs, enfin coup sur coup, Kader à Vitry, Kader à Valenton, Yazid à Strasbourg et tout ça. Lawari Ben Mohamed à Marseille.
Mognis.
Alors, tué soit par des beaufs, soit par des CRS ou des policiers, quoi. Et là, on a dit stop. Et c'est ça, enfin, l'intérêt de Rock'n's Police après, à mon avis, la réelle émulation, c'était sur la capacité à un moment donné de faire des crimes racistes sécuritaires, la question des relogements de sites de transit, un enjeu national à un moment donné. Et que ça a vraiment marché, que les gens, ça a afflué, quoi. Sous l'appellation Rock'n's Police, ou pas d'ailleurs.
À chaque concert Rock Against Police, un journal tract est distribué. Édito du premier journal tract, diffusé à Saint-Blaise, le 19 avril 1980.
Pourquoi contre la police et non pas contre le racisme ? Plus que le racisme, l'enjeu, c'est notre territoire social et l'émergence au niveau de masse de comportements de délinquance. Notre ennemi commun, notre oppresseur commun, c'est les flics. Par ces assassinats cow-boys de jeunes zonards, les flics dépassent largement les limites du racisme. Trop d'antiracistes en appellent aux flics contre nous. Pourquoi rock ? Pas le rock des fils à papa, celui des hit-parades, mais bien celui des jeunes des cités, de la rue, immigrés et prolétaires français ensemble, qui expriment par la réappropriation du rock, mais aussi du théâtre, du cinéma, du parvis de Beaubourg, leur quotidien, leur vécu social. Le concert est gratuit, organisé par nos propres moyens sur la place publique. C'est un acte politique, un point de départ pour une nouvelle circulation de notre sensibilité créatrice des jeunes immigrés dans la zone des différentes banlieues.
Il y avait un phénomène à l'époque quand même, c'était quoi, on parle de quoi, 78, fin des années 70, de première période de crise longue, de désindustrialisation, et donc de précarisation organisée et de paupérisation. Et donc un certain nombre de gens, que ce soit dans les facs, dans les cités, etc., se retrouvaient par rapport à des situations de difficultés de survie d'un point de vue économique, quoi. Et donc il fallait inventer des formes de survie. Et en même temps, c'était pas, à l'époque, il n'y avait pas un discours pleurnichard sur... Ouais, c'est la crise, personne ne nous aime. Les perspectives par rapport aux moyens économiques étaient bouchées, et en même temps, il n'était pas question de continuer ou d'accepter les travails de merde, les loisirs de merde, etc. D'où, par exemple, ça on y participait beaucoup aussi, les autoréductions, c'était pas que des histoires de vol théorisés, mais c'était aussi aller à des concerts, en rentrant en force, etc. Ça, il y a un nombre incroyable de fois. Voilà, enfin, donc, dans ce contexte-là, ce qui nous intéressait, c'est l'articulation entre les nouvelles formes de l'immigration et les nouvelles formes du prolétariat. Tout premier, c'était quoi? C'était avril 80. Cette histoire de Rock and Police est apparue comme un besoin de faire sur Paris ce qui était une aspiration dans différents quartiers ou cités en proche banlieue. Bon, ça circulait beaucoup, mais parmi ceux qui faisaient un suivi, c'était pas énormément de monde, hein. C'était entre 5 et 6 jusqu'à une trentaine de gens qui étaient impliqués dans l'organisation des choses. Il y a cette espèce de réseau informel qui s'est mis en place avec les gens de Vitry, avec les gens de Nanterre, quelques artistes de la zone. Mounsi, enfin bon, des gens de la Courneuve. Ah oui, il y avait aussi des gens du quartier de la Goutte d'Or, parce que Sans Frontières s'était installé à rue Stephenson, en plein dans à Barbès, à la Goutte d'Or. Et puis il y avait des phénomènes de rencontres, de convergence avec certains écolos, des antinucléaires, partie de l'autonomie comme mouvement politique, quoi. Présent d'ailleurs principalement en milieu étudiant et présent aussi dans certains squats, quoi, Belleville, Ménilmontant, et ça. Et donc à un moment donné, il y a un nouveau squat qui s'est ouvert à Parmentier, plus politique que les autres, avec une partie des gens du groupe Camarades.
Alors le discours de l'autonomie, c'était une rencontre entre, d'une part, les gens de Camarades, qui travaillaient uniquement sur la théorie. Ils étaient d'excellents lecteurs, et notamment des théoriciens italiens.
Bernard.
Alors, on s'est accoquiné, on est rentré dans le groupe Camarades. Donc, en même temps, ils nous ont permis à réfléchir sur ces jeunes prolétaires de banlieue, et en même temps sur les premières actions en direction des comités de chômeurs, former des comités de chômeurs, réfléchir sur le chômage et découvrir la difficulté de mobiliser dans ces secteurs-là. Voilà. Et là, ils ont commencé à voir que les luttes de l'immigration étaient complètement autonomes, c'est-à-dire à cette époque, dans un premier temps, mot autonome est assez complexe. Hein. Ça signifie qu'on était indépendant des autres organisations syndicales et politiques. Bon, il y avait déjà une définition d'autonomie qui était là. Si bien qu'on avait on nous a fait la réputation d'être, de faire de l'anti-militantisme, de dénoncer les militants des autres organisations à l'égard des masses pour les en détourner.
Évidemment, parce qu'on était dans cette mouvance où, en Italie, il y avait la réalité extrême que nous connaissons. En Allemagne, il y avait la bande à Bader. On baignait un petit peu. Tout cela était là. Et tout cela, évidemment, avait des répercussions sur nous. Le fait de refuser les institutions, quelles qu'elles soient. Même la gauche était pour nous une institution admise.
Mounsi.
Nous, on voulait attirer l'attention sur la frange de tout ce qui était banni, qui était mis au ban de la société. Et dans tous les lieux, que ce soit les lieux d'incarcération, que ce soit les lieux de psychiatrie. On a été une génération où nous avons baigné tout à fait là-dedans. Il y avait un autre personnage qui a été très important dans notre sensibilité, qui s'appelait Taleb Bajaj, qui est mort au quartier de haute sécurité, qui était compagnon de Mesrine, qui était compagnon de Charlie Bauer, de Roger Knobel-Pice, de toutes ces générations qui ont été contre les quartiers de haute sécurité. Et nous, on était extrêmement sensibles à ça. Alors que ceux qui étaient des partis de gauche, évidemment, voyaient ça comme des germes de terrorisme.
Moi, ça faisait quand même des années. Bon, j'ai été viré de l'école, j'ai en 72. À partir de là, j'ai vécu, j'étais à plein délinquant juvénile, j'étais en dole, j'étais mineur, tu vois, tout ça. C'était l'époque des mutineries dans les prisons, aussi, moi j'étais à fond sur tous ces trucs-là, l'époque de Jacques Mesrine, tu vois, tous ces trucs.
Allez, si.
Et je disais, voilà, il y a toute une jeunesse qui n'est pas la jeunesse estudiantine, qui est une jeunesse de relégués, quoi, de gens, de toute façon, qui n'auront pas trop d'avenir dans la société, à part de faire les boulots les plus merdiques, et de toute façon, qui ne veulent pas bosser, de gens qui seront toujours toute leur vie des chômeurs à vie parce qu'on ne veut pas rentrer dans leur système. Il y a ce truc du refus du travail, c'était fort quand même à l'époque. Au Minguette, par exemple, quand je suis allé au Minguette, la première fois, avec des copains, quelques semaines avant, il y avait eu une émission de télé, ils avaient invité un type des Minguettes. Le malaise des banlieues. Un mec qui s'était présenté comme un certain Jimmy. Et lorsque le présentateur d'atelier lui avait demandé, il avait dit « Qu'est-ce que vous voulez, en fait ?» Genre, il y a cette révolte, mais vous voulez bien quelque chose. Et lui, il avait dit « On veut que les flics nous laissent tranquilles et on veut du boulot. » Ce Jimmy, du boulot, il en voulait pas, je peux te le dire. On me parlait, on était exactement sur la même longueur d'onde. Tu vois. Jimmy avait le discours de dire « Ouais, de toute façon... On se démerde comme on peut. Évidemment, c'est difficile de dire ça comme ça. Je veux dire, si tu veux, la part la plus forte de cette révolte, elle était forcément clandestine. Elle était forcément enfouie dans une certaine clandestinité par rapport à la parole admise. Tu peux parler pour dénoncer les brutalités policières, mais au fond... Tu peux pas parler pour dire, par exemple, que tu voles des voitures le samedi soir pour aller en ville et pour revenir, tu vois. Tu peux difficilement le dire, ça. Alors que c'est plutôt la réalité de n'importe quelle cité, et c'est normal qu'il en soit ainsi. Je veux dire, c'est que là, on est dans une situation de dissidence sociale, de gens dans la simple existence. Dès que, par exemple, quand ils veulent se déplacer, c'est des jeunes... ça induit des situations conflictuelles. Pour moi, je voyais cette jeunesse de la rue, de la petite délinquance, de la conflictualité quotidienne avec les flics. Et moi, je le voyais en tant que blanc aussi, tu vois. Évidemment, nous, on était emmerdés par les Condés sans âme à cause de nos dégaines. Copain Robeux, on voyait bien quand il y avait un arabe avec nous dans la bande, on se faisait embarquer, il avait toujours droit de se faire insulter et bousculer plus que les autres. Quoi. Ça, on savait bien. Vous savez bien qu'il suffisait de tomber le perfecto, les sentiers avec le jean et de mettre un costard, de se faire une coupe de cheveux correcte, et ça passait. tu vois. Tandis que bronzé tu restes, tu vois. Mais ça, les copains arabes, ils nous disaient, nous, on a beau se mettre bien. Ça, on le savait, le racisme, on le savait, ça.
C'est une époque, vraiment, où il y a beaucoup de choses qui se passent. Le logement, la participation à telle action antinucléaire, toutes les luttes classiques, hein, le féminisme, les homos.
D'hommes.
L'époque des stages bars dont je parlais, où nous, on voyait des jeunes, comment dire, issus de l'immigration, qui arrivaient dans le mouvement, qui s'organisaient, qui se réunissaient. C'est comme un peu le comité des précaires, après, dans quelques années après. Ils étaient déjà, eux, en demande, en rupture, en demande, et donc, comment dire, ouverts à des propositions d'organisation, de lutte. Et à l'époque, il y avait des endroits qui permettaient cela. Et moi, je me rappelle, dans le 20e, par exemple, quand des jeunes venaient à nos concerts dans le 20e, au tout début, à l'époque, à la même époque, hein, 80-81, les gens venaient nous voir en disant « Tiens, c'est pas mal votre démarche. Moi, je fais ça, j'en ai un peu marre de ma famille, j'ai envie de me barrer de chez mes parents, je sais pas où aller. » Et on a ouvert, des fois, des squats, des logements pour des jeunes comme ça, qu'on avait rencontrés dans des concerts. Dans les Rock Against Police, c'est parce que des copains y allaient, des copains croisés dans une manif, disaient il y a un rap ou il y a un concert tel jour, on a besoin d'aide et on y allait. Moi, c'était pas la problématique musicale, tu vois, c'était ni du lieu, c'était la problématique de l'organisation qui m'intéressait plus, c'est-à-dire de rencontrer des gens nouveaux, d'apporter un coup de main. L'originalité, c'est la démarche, c'est pas tellement le nom que ça, et le public que ça amène, et donc des gens différents. Il ne faut pas oublier que les gens de banlieue n'en vont pas à Paris. Hein. Il y a une frontière invisible, mais elle existe. Les liens se construisaient dans des manifs, dans des actions, dans des concerts, mais que spontanément, tu vas plus facilement à un concert dans ton quartier que sur un autre territoire que tu ne connais pas et qui t'est peut-être hostile. Et par rapport à la banlieue, il n'y a pas une solidarité forcément... comment dire, évidente entre les looks et entre des ce qu'on pouvait appeler des stage bars à l'époque, c'est-à-dire des jeunes en rupture ou des jeunes qui vivaient des petits boulots de merde, et des gens organisés ou des gens lookés, il n'y avait pas forcément une sympathie automatique. Mais en même temps, c'était à créer, et ces lieux pouvaient créer des rapports humains différents. De par la gratuité, de par l'originalité de ce qui était proposé musicalement, et puis organiser les choses, ça résout beaucoup de problèmes, quoi. Quand des gens de groupes différents, d'origines différentes, vont se mettre à organiser un concert, prendre contact avec des groupes, une sono, voir où on va piquer l'électricité, enfin, etc. C'est ça qui crée du lien, c'est ça qui a d'intéressant majoritairement, au-delà des groupes qui passent sur scène. C'est ce que ça génère comme rapport humain. Et donc, de fait, dans la lutte, et ce que ça va produire. Les gens qui organisaient Rock Against Police étaient dans la même démarche que nous. Simplement, nous, on n'a pas organisé de Rock Against Police spécifiquement. C'est plutôt des gens comme Mognis ou d'autres gens qui avaient en charge tu vois, cette organisation, qui venaient d'une autre banlieue, d'ailleurs. Et ça montre toute la richesse qu'il y avait, en fait, à l'époque. Tous les thèmes étaient investis, et des nouvelles formes d'organisation apparaissaient. Pour les RG, 100% pour les PDG, 100% pour les surgés, 100%
société.
L'élément un peu nouveau, c'est pas Rock Against the Police qui l'a provoqué, mais il l'a un peu synthétisé, c'est la volonté de se réapproprier l'espace de la cité. Et l'espace de la cité avec la configuration des gens qui habitent dans la cité. C'est-à-dire, c'est pas simplement d'ouvrir un espace pour faire du rock pour les jeunes rockers, c'est des espaces pour de la musique pour les gens de la cité, quoi, ou de la partie de la cité. Avec une obligation de réfléchir au croisement des publics, au niveau des genres musicaux, mais aussi au niveau des jeunes, les vieux, les hommes, les femmes, tout ça. Donc l'idée, c'est ça, quoi, c'est... Rock Against the Police a été une forme d'organisation de concerts, ouais, auto-gérés, auto-organisés, sans financement public ou privé d'ailleurs. Mais dans les cités, dans l'espace de la cité, de préférence en plein air, etc.
Journal Libération, rubrique Agit-Prop, du 16 avril 1980.
Rock Against Police. Il y a peu de temps, Kader et Yazid, deux jeunes immigrés des cités de banlieue, ont été tués par des balles policières. Leurs copains et d'autres jeunes immigrés et prolétaires de banlieue organisent une journée et un concert gratuit Rock Against Police, samedi 19 avril à partir de 14h. Film vidéo au 108-110 rue des Pyrénées, La Parmentière, 75-020, métro Maraîcher. Le concert a lieu à 16h, place des Grès, avec Chantier, Les Forbans, Jess, Louise Arty, Pieds Joints, place des Fêtes, Scandale.
Bah, j'avais mis les pieds parce qu'il y avait ce concert de Rock Against Police.
Franck.
Dont j'étais au courant, qui avait été annoncé assez publiquement. Peut-être la première fois que j'ai foutu les pieds en dehors. En dehors de mon bled. Et j'avais été, je me rappelle, avec mon petit frère. On avait été. Moi j'avais 16 ans, il y avait 13 ans. On sortait de notre banlieue. C'était arrivé, c'était un métro, c'était loin, il fallait traverser tout Paris, et on avait dû arriver, on avait mal évalué la distance, ça nous semblait tellement le bout du monde qu'on avait dû arriver une heure en avance. Chronologiquement, donc, je crois que oui, ça, on est arrivé donc par en bas, on a remonté la rue, il y avait la Parmentière qui était donc rue des Pyrénées, on avait continué notre périple, on était arrivé devant le commissariat de la rue des Orteaux, ils étaient en train de charger les meubles dans des camions, et de déménager le commissariat en prévision du concert. C'était une heure avant le concert, ils chargeaient les derniers meubles, ils évacuaient le commissariat. Puis après, on s'était retrouvés en trou, on cherchait la rue Saint-Blaise, hop, on l'avait trouvé. C'est arrivé dans un squat de punk. Jamais vu de punk de ma vie, des punks avec des crêtes, des piercings, des machins, c'était assez impressionnant. Des autonomes plus vieux que nous, enfin des mecs en blouse en cuir avec des kéfiers. Bon, on arrivait, il y avait une grosse banderole, commune libre de Saint-Blaise, et c'était un espèce d'îlot, enfin une cour entourée d'immeubles. Un pâté de maison, pratiquement. Enfin, la forme que ça avait, c'était un terrain vague entouré d'immeubles. Et le concert avait lieu dans le terrain vague. Et j'étais impressionné, quoi. Impressionné du niveau de violence qu'il y avait là-dedans. C'était du délire, quoi. Mais ça se passait, par exemple, il y avait trois personnes en train de courir quelqu'un avec des couteaux pendant qu'il y avait des gens qui discutaient à côté, qui s'en foutaient royalement et qui parlaient des problèmes italiens, les différences entre le mouvement autonome et les brigades rouges, de la répression qu'on commençait à y avoir en Italie, etc., etc. C'était l'enlèvement Moreau ou je sais pas quoi. Tu avais des discussions politiques comme ça autour de gens, au milieu de gens qui s'ouvrent à les veines à coups de tesson de bouteille. C'est juste... Moi, je trouvais ça impressionnant. Et complètement délirant. Et en plus, le groupe qui jouait, c'était des espèces de rockabilly en costard. Du rockabilly variette. C'était assez bizarre. Assez surréaliste. Mais j'ai pas identifié les gens de Rock Against Police spécifiquement. Ça donnait un peu l'impression que c'était organisé par tout le monde. Ça donnait pas l'impression qu'il y avait des organisateurs. Enfin, l'impression que ça donnait, c'est que c'était organisé par l'entièreté du mouvement. Je pense qu'il n'y avait pas beaucoup de... Enfin, c'était vraiment un événement du mouvement autonome et des punks. Les textes et l'affiche liaient la problématique, il me semble, hein, liaient la problématique plus aux histoires de cité de banlieue. Mais le public n'était pas du tout cité de banlieue, c'était le public autonome.
Mais cette bande de copains était toujours main dans la main. Ils le répétaient souvent sans penser au lendemain. Vous jouez dans les soirées tout le monde, les bébés twistés. On est ici pour lancer le rock. Allez Suzy, oh oui, twist encore. Mais sur la piste, balance ton corps.
En fait, le concert Rock Against Police de Paris, enfin le premier, et le journal qui va avec, quand on le regarde comme ça après coup, on voit bien qu'il y avait un souci d'essayer de restituer une multiplicité d'expériences un peu éclatées. Pas pour dénoncer le fait que ce soit éclaté, mais au contraire, pour marquer notre étonnement par rapport à la simultanéité de pratiques assez semblables et d'aspirations assez semblables par des gens qui ne se connaissent pas. La plupart des gens faisaient des choses sans jamais avoir entendu parler de ce qu'avait fait l'autre. Et donc, comme c'était un truc parisien, ça lui donnait tout de suite une sorte d'écho que les initiatives qui étaient de l'autre côté du périphérique ne rencontraient jamais, quoi. Et ça, c'est un élément de réponse un peu complémentaire par rapport à la question « Pourquoi Paris ?». Il y avait vraiment, enfin, quand on voit le 4 pages, le premier, on voit bien qu'il y avait une volonté comme ça de faire se rencontrer toutes ces initiatives et de trouver le sens commun et tout ça, de dépasser les particularités locales, Vitrine, Nanterre, etc., de faire un truc, se dire bon, il y a des flingages partout, Cadet à Vitry, Cadet à Valenton, Yazid à Strasbourg, etc., etc., qu'on ne pouvait pas gagner uniquement localement, mais qu'il fallait poser le problème de manière centrale. Donc ça, c'était dans le discours, et c'est dans la théorie, c'était juste. Mais entre l'intention et la pratique, vu comment c'est passé à Saint-Blaise, il y a eu une autocritique. Par exemple, au premier concert, je pense que... Enfin, on était relativement déçu quand même par le peu d'impact qu'il a eu sur les gens des banlieues qui étaient au courant de l'histoire, quoi. Le rapport au quartier, il n'y en avait pas. Occuper un bâtiment, c'est parce que ce bâtiment-là était vide et que c'était bien, que c'était pratique, ça, mais bon, il n'y avait pas d'histoire avec les gens du quartier. Alors que les pratiques qu'on avait étaient toutes liées à une pratique de reterritorialisation, comme on disait à l'époque. On était pour la circulation, mais on était aussi pour un investissement sur le quartier où il y avait une réelle présence.
Extrait du journal Tract, distribué à Saint-Blaise le 19 avril 80. De Vitry à Nanterre, l'histoire politique de jeunes immigrés.
Les jeunes immigrés ont désormais une histoire politique propre. Plus seulement celle de la zone, celle de l'organisation sauvage et spontanée des bandes dans les cités, mais une histoire politique toute récente, basée sur l'émergence de luttes spécifiques d'une nouvelle capacité d'initiative autonome. Initiatives de lutte qui font tache d'huile, entraînant les autres secteurs révoltés de la population dans leur sillage. À la cité Bourguiba de Marseille, les parents ont suivi leur môme qui piquait en bande au supermarché du coin depuis qu'ils connaissent de près le chômage et les vigiles. Baston et autoréduction massive. Le supermarché a dû fermer. À Vaux-en-Velin, les flics, venus mitraillettes au poing dans la cité pour attraper un jeune réputé délinquant, ont été vidés et ridiculisés par plusieurs centaines d'habitants, par ses copains et leurs vieux. Ces luttes sociales prennent des formes inconnues des luttes précédentes dans l'immigration, la classe ouvrière, etc. Elles s'organisent dans des lieux inattendus où la bonne moralité révolutionnaire n'a pas cours. Les boîtes de nuit, les foyers de jeunes filles, les caves, autant de lieux qui leur sont en principe interdits. Cette circulation nouvelle des gens et des informations lève le blocus imposé par les militants traditionnels sur tout ce qui a trait à l'expression directe des besoins, à la subjectivité, la délinquance par exemple. Mais il nous faut aussi dépasser les rivalités entre bandes, entre banlieues, même celles les plus politisées, Nanterre, Vitry, Saint-Denis, Aubervilliers, entre mecs et nanas, entre les mecs qui circulent en bande et celui qui prend des initiatives individuellement. Ce besoin d'organisation passe aujourd'hui essentiellement par la coordination entre les jeunes immigrés et prolétaires de chaque cité où ils luttent, individuellement, collectivement, de manière autonome ou avec des forces traditionnelles. Si nous organisons un Rock Against Police à Paris, c'est pour faciliter la venue des gens de toutes les banlieues. Sachant que s'ils avaient été organisés à Vitry, ceux de Nanterre auraient eu des difficultés de transport, bien qu'ils soient gratuits d'office. Mais il est bien sûr important de nous organiser à long terme sur notre territoire, pour imposer les moyens de déplacement et de circulation transversaux dont nous avons besoin.
Donc, je pense une espèce d'autocritique du premier concert trop théorique, enfin trop abstrait, à la fois physiquement, les lieux, puis dans le discours. Et en même temps, moi j'ai toujours été partisan d'essayer de théoriser, d'aller vers le global, etc., et de ne pas rester basiste, localiste, et tout ça. Mais donc, pour répondre à la question du concert, on pensait faire un concert, et on ne pensait pas du tout que ça allait prendre, avec ce label, avec que ça allait prendre comme ça, que ça allait se démultiplier. Au départ, c'était pas forcément l'objectif. Par contre, ce qui était l'objectif, c'était de mieux se coordonner, de créer les conditions pour que les gens se retrouvent et fassent des choses en commun.
Against Police, un documentaire en 6 épisodes. Épisode 2, se rencontrer et se coordonner. Avec Wunderbar, la souris des blindés, pieds joints, les formats.